ce matin, je vous propose un peu de musique. Elle adoucit les mœurs, dit-on. Et ceci à l'occasion d'un anniversaire que le coronavirus ne parviendra pas à nous faire rater. Il y a 250 ans, naissait un génie. Je vous laisse le découvrir. Ça va tout de suite mieux hein, après ça. Je ne sais pas si les plus mélomanes d'entre vous auront reconnu. Je vais accueillir mon invité. Il va nous présenter cet extrait. Bonjour Serge Chosy.
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Les auditeurs de l'émission Mélomanie vous connaissent bien. Vous êtes un chroniqueur régulier aux côtés d'Éric Dupri. Vous êtes également le cofondateur du SIC Classique Toulouse, qui est un portail de l'actualité musicale ici dans la Ville Rose. Alors cet extrait, Serge Chosy.
Ah bien, il s'agit du début de la fameuse sonate pour violon et piano qui est baptisée Sonate du printemps. Elle est tout à fait indiquée en cette période et en cette journée si ensoleillée et si belle.
Eh oui, sonate en fa mineur de Ludwig van Beethoven, dont nous fêtons le 250e anniversaire de la naissance. Alors, à ce propos, une série de concerts était programmée. Vous m'avez dit hors antenne que la symphonie pastorale avec l'Orchestre national du Capitole était prévue à la Halle aux Grains. Évidemment, la crise sanitaire en a décidé autrement. Mais ce matin, on va tout de même rendre hommage à Beethoven et on va s'intéresser ensemble, Serge Chosy, à un aspect majeur de la vie de Beethoven qui est sa surdité. On peut dire qu'il a vécu une sorte de confinement en fait lui aussi. Hein.
Oui tout à fait, un confinement intérieur qui est d'autant plus incroyable, extraordinaire, qu'il s'agit de surdité pour un compositeur de musique.
Donc oui,
c'est une chose épouvantable. Hein. Alors il ne faut pas tout à fait le réduire à cette surdité, hein. mais ça a joué un rôle considérable dans le développement de sa carrière de compositeur, dans sa création. Mais je voudrais quand même rappeler au début de cet entretien ce qu'en disait Romain Rolland, qui était un beethovenien idolâtre, on pourrait dire. Il a écrit ceci, « Beethoven est bien davantage que le premier des musiciens, il est la force la plus héroïque de l'art moderne. » Et cet héroïsme, on le retrouve tout au long de la carrière de Beethoven. Alors évidemment, cette surdité, elle est arrivée petit à petit. Hein. Ça n'est pas devenu surdité.
Et oui, comment est-elle apparue?
Pardon?
Comment est-elle apparue, cette surdité?
Petit à petit, il a constaté qu'il avait des problèmes d'audition. Il a consulté de multiples médecins. Il s'en est plaint beaucoup plus tard, qui en fait n'ont rien amélioré. Il a essayé de se faire fabriquer des appareils pour pouvoir entendre un peu mieux. Il a pris des drogues, enfin bref, rien n'a amélioré cette surdité épouvantable au point que il y a eu une année bascule pour lui, qui est l'année 1802, et qui est, il avait donc 32 ans, et là, il a voulu mettre fin à ses jours. Il a même écrit un testament.
Voilà.
Oui, il a écrit un testament d'Heiligenstadt, qui est, Heiligenstadt, c'est une petite ville près de Vienne, c'est maintenant un des quartiers de Vienne, un peu marginal. Et donc, il a écrit ce testament entre le 6 et le 10 octobre 1802. Cette lettre n'a en fait jamais été envoyée et elle a été retrouvée simplement après sa mort. C'est une lettre qu'il a adressée à ses deux frères et dans laquelle il s'est penché en quelque sorte et il tenait à dire ce qui se passait pour lui. Hein. Alors, elle débute par une phrase qui est vraiment tellement beethovenienne quand on connaît le compositeur qui est la suivante. « Ô vous, homme qui me tenez pour haineux, obstiné ou qui me dites misanthrope, comme vous vous méprenez sur moi. J'ai dû tôt m'isoler, mener ma vie dans la solitude, et si j'essayais bien parfois de mettre tout cela de côté, oh, comme alors j'étais ramené durement à la triste expérience renouvelée de mon ouïe défaillante. Et certes, je ne pouvais me résigner à dire aux hommes, parlez plus fort, criez, car je suis sourd.
Alors, est-ce que c'est contemporain ? Est-ce que, pardonnez-moi Serge, je choisis, c'est contemporain, oui. Je savais qu'il était sourd ?
Ben oui, ils l'ont appris. En fait, jusque-là, jusqu'en 1802, il essayait de cacher sa surdité. Mais à partir de 1802, heureusement, il n'a pas mis à exécution son projet de suicide, hein, donc heureusement pour l'histoire de la musique et pour lui aussi, évidemment. Mais tout a basculé à partir de ce moment-là. Et donc, tout le monde s'est aperçu, effectivement, qu'il avait des problèmes d'audition, au point que il avait mis au point, en quelque sorte, l'utilisation de ce qu'on appelait les carnets de conversation, qui étaient des petits carnets sur lesquels il faisait écrire par ses visiteurs les questions qu'il voulait lui poser. Et puis lui, il répondait, puisqu'il parlait, évidemment. Donc on a retrouvé ces carnets, c'est absolument émouvant et bouleversant de lire ce carnet et d'imaginer comment se passaient ses contacts avec les personnes qu'il rencontrait, qui étaient donc tout à fait conscientes de son état.
Et Serge Chosy, vous êtes un amoureux de Beethoven, un amoureux de la musique. Concrètement, comment c'est possible de composer de la musique en étant sourd ?
Eh bien voilà, c'est un grand mystère, mais comme il n'est pas né sourd, disons qu'il avait toute une structure musicale de composition. Ben la musique, c'est aussi des mathématiques, hein, c'est aussi toute une série de structures qui supportent l'expression musicale. Et donc, oui, c'est possible, et c'est d'autant plus incroyable que même sourd, et même complètement sourd, parce qu'à partir de 1820, il a été complètement sourd, hein. Il a été complètement isolé de tout le reste de la société, et pourtant, il continuait à jouer du piano, à diriger les orchestres, à interpréter ses propres œuvres, donc on se demande comment il pouvait faire, et pourtant il le faisait, hein. Donc ça s'est passé de manière, j'allais dire, presque naturelle, je mets des grands guillemets, là, il a continué à produire et à créer.
Et à créer doublement, presque. Hein, son confinement lui a été très bénéfique, prolifique. Vous dites qu'il y a eu une bascule après ce testament d'Elie Genstadt qui marque donc le moment du désespoir et puis finalement la renaissance bascule. Oui. Est-ce qu'on peut dire que sa surdité a d'une certaine manière sublimé son œuvre ?
Oui, peut-être. Hein. D'ailleurs, à la suite de ce testament, il a écrit au violoniste, un violoniste ami à lui, qui s'appelle Wenzel Krumpholz, il lui a écrit « Je suis plus peu satisfait de mes travaux jusqu'à présent, à dater d'aujourd'hui, je veux ouvrir un nouveau chemin ». Et effectivement, c'est ce qu'il fait, puisque en 1803 est créée sa symphonie la plus révolutionnaire, la troisième symphonie dite héroïque, hein, donc, et qui vraiment bouleverse, révolutionne complètement l'écriture symphonique de l'époque. Hein. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que tout change et qu'il devient une sorte de compositeur révolutionnaire, en quelque sorte. Puisque, révolutionnaire, il l'était même sur le plan social, en quelque sorte. Il méprisait la hiérarchie. Et alors, il a écrit notamment une phrase qui est restée gravée dans les rubriques au prince Lichnowsky, qui était un prince qui le soutenait. Il lui a écrit ceci. « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi. Des princes, il y en aura des milliers. Il n'y a qu'un Beethoven. » Donc, on voit la conscience qu'il avait de sa valeur. Mais oui. Mais ce n'était pas de l'orgueil, c'était vraiment de la conscience, on peut le dire. A posteriori, on se rend compte qu'il avait raison.
Et alors, pourquoi vous dites qu'il a révolutionné la musique de son époque ? On va le resituer tout de même. Il a d'illustres prédécesseurs. Hein. On parle de Mozart, d'Haydn. En quoi est-ce qu'il s'en est démarqué ?
Eh bien, écoutez, j'ai l'habitude de dire que Beethoven est le dernier grand représentant du classicisme et le premier des compositeurs romantiques en même temps. En fait, il est l'héritier des compositeurs comme Gluck et surtout Haydn et Mozart. deux personnages qu'il a rencontrés. Haydn, il l'a non seulement rencontré, mais Haydn a été son professeur. Donc, oui. Donc il est l'héritier du classicisme, absolument. Et Mozart l'a même rencontré. On pense qu'ils se sont rencontrés, que Beethoven a joué pour lui. Et donc, et il a surpris Mozart, qui était jeune, hein, très jeune. Mozart est mort bon, à 35 ans, donc... Et donc, Beethoven lui a joué ses compositions, et Mozart a même dit à un ami qui était présent, faites attention à celui-là, il fera parler de lui dans le monde. Donc effectivement, vous avez raison, c'est l'héritier du classicisme. Mais il a renouvelé le langage, parce qu'il y a intégré non seulement des éléments techniques, c'était le champion de la variation sur un thème, il a écrit des tas de variations sur thème, enfin c'était la technique, mais surtout il a renouvelé en quelque sorte le pouvoir expressif que porte la musique. Et on peut dire que dans sa musique, on trouve les sentiments, les expressions les plus extrêmes, de la douceur, de la nostalgie, à la colère, à la révolte. C'est donc un musicien particulièrement expressif, on peut dire.
Est-ce que c'est de la musique, alors pardon pour les amateurs évidemment, de la musique de sourd? Est-ce qu'on sent sa surdité dans sa façon de construire sa musique?
Ah non, pas du tout. Pas du tout. Vraiment pas. Non, c'est et ce qui est aussi impressionnant, c'est l'influence qui a été la sienne sur la suite, sur les compositeurs qui l'ont suivi. Il a même inhibé certains compositeurs, comme Brahms. Johannes Brahms, par exemple, n'osait pas composer de symphonie. Il avait trop peur d'être comparé à Beethoven. Et donc, il a attendu l'âge canonique à l'époque de 41 ans pour composer sa première symphonie, pour oser composer sa première symphonie, ce qui est tout de même incroyable. Tellement il était impressionné par le talent de son prédécesseur, qu'il vénérait. Et puis il y a eu d'autres, tous les compositeurs qui ont suivi. Jusqu'au XXe siècle, on peut dire, l'influence de Beethoven s'est étendue.
Et vous me disiez qu'il ressentait l'idée qu'il avait une mission à accomplir, Beethoven.
Oui, exactement. C'est ce qu'il a dit et écrit après le testament d'Heiligenstadt. Donc, il pensait qu'il avait une mission artistique, une mission sociale. Il considérait que la musique avait une mission sociale. Mais il était très en avance sur son temps, puisqu'il était à la fois républicain et dont la hiérarchie, il n'aimait pas ça. Et puis la noblesse, il la méprisait un peu. Donc, effectivement, donc ça a été une sorte de révolutionnaire sur tous les plans.
Alors, il était très fort en improvisation, c'est ça qui marquait surtout les esprits à l'époque. Alors malheureusement, on n'en a pas de trace de l'improvisation.
Hélas, oui. Alors oui.
Ça serait quoi la pièce majeure de Beethoven, selon vous?
Pardon?
La pièce majeure de Beethoven, la plus emblématique de son œuvre.
Oh là là, non, c'est impossible à dire. Impossible. Parce qu'il y a à la fois ces 9 symphonies, évidemment la 9e couronne le tout, et d'ailleurs, ça, c'est un peu... Alors, ce qui est réconfortant, c'est de voir que le chœur final de la 9e a été choisi comme hymne européen. Donc c'est tout un symbole. Vraiment Beethoven, l'européen. Et puis il y a toute sa musique de chambre, et les 32 sonates pour piano, les 16 quatuors à cordes, puis bon, les concertos, 5 concertos pour piano, un concerto pour violon, un opéra, un seul, Fidelio, un opéra d'ailleurs qui met en scène les actes d'un tyran. Donc tout ça, c'est lié à ses aspirations sociales.
Merci beaucoup, Serge Chosy. Vous êtes animé de Beethoven, on le sent, vous nous l'avez fait revivre. Grâce à vous, on voit que son confinement à lui a été très bénéfique pour nous, pour nos oreilles. On vous retrouve aux côtés d'Éric Dupri le vendredi à 19h dans Mélomanie. Et puis, on va guetter les informations du site classiquetoulouse.com pour voir les prochains événements, j'espère, cette année, pour qui rendront hommage à Beethoven. Merci à vous.
Merci.